n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Dans votre émission aujourd'hui, entretien avec l'auteur de la bande dessinée Bébé sans bras, un déni sanitaire. Une affaire de santé publique étouffée. Dans l'un, 8 enfants sont nés avec une malformation de l'avant-bras. On revient sur ce sujet et vous pourrez écouter l'intervention d'Emmanuelle Amar, directrice du registre des malformations en Rhône-Alpes. En fin d'émission, on part à Nantua pour découvrir la nouvelle exposition du musée de la Résistance et de la Déportation. Et dans votre actualité en bref, on revient sur le match caritatif au profit de l'UNICEF.
Bourque, en bref.
Le président de la Ligue des droits de l'homme était à Bourg-en-Bresse jeudi dernier. Patrick Baudouin est venu pour inaugurer les nouveaux noms des rues Hélène et Victor Bache et Louise et Paul Pioda qui rendent hommage aux résistantes de l'Ain. Notre bénévole Jean-Jacques Chavanne est allé à sa rencontre.
Bonjour Patrick Baudouin.
Bonjour.
Pourquoi êtes-vous venu à Bourg-en-Bresse pour l'inauguration de deux noms de rues en hommage aux femmes résistantes, Louise Pioda et Hélène Bache?
Parce que il paraît extrêmement important et d'actualité d'honorer aussi les femmes, ce qui n'a pas été suffisamment fait dans le passé. On voit très bien dans nos noms de rues, d'avenues, que ce sont généralement des hommes hein, qui donnent la dénomination. Donc je crois que c'est très très salutaire, d'autant plus que là on est en présence de deux femmes exceptionnelles. L'une qui a été une grande résistante, Louise Pioda, et puis Hélène Bache, bien sûr, épouse de Victor Bache, dont elle a partagé tous les combats pendant leur vie commune, qui a duré rien moins qu'une soixantaine d'années, et qui a été, en même temps que son mari, exécutée par la milice, la Gestapo, le 10 janvier 1944. Donc ils sont inséparables, Victor et Hélène. Elles sont inséparables. Donc je trouve extrêmement important que l'actuel président de la Ligue des droits de l'homme que je suis vienne ici à Bourg-en-Bresse honorer Victor et Hélène Bache et puis aussi bien sûr Louise Pioda.
La Ligue des droits de l'homme est une association qui défend les droits humains. Elle a dénoncé récemment les manquements à ces droits par les forces de l'ordre pendant une manifestation contre les mégabassines à Sainte-Soline. Les mégabassines sont des retenues d'eau superficielles très controversées qui permettraient une irrigation agricole en cas de sécheresse. Patrick Baudouin s'exprime sur ce sujet.
Nous vivons en ce moment des violations policières qui porte atteinte au droit de manifester. Et si on prend l'exemple de Sainte-Soline avec cette manifestation contre les mégabassines, la police, elle est là pour protéger et pas pour, pour mettre en danger. Et à ce titre, les manifestants qui étaient à Sainte-Soline étaient pour l'essentiel des manifestants non violents. Or, les forces de police, de gendarmerie en l'espèce, ont utilisé des moyens à l'encontre des manifestants ou des manifestantes extrêmement dangereux. Je vise notamment les quads, hein, ces motos utilisées qui, au lieu d'être utiles pour apaiser les tensions, les enveniment. Et puis, bien sûr, le recours à ce qu'on appelle des armes de guerre, c'est dénommé comme tel dans la catégorisation, c'est-à-dire les LBD, les lanceurs de balles de défense, qui ont blessé beaucoup de personnes, notamment au moment de la crise des gilets jaunes, et puis les grenades de type GM2L, qui sont des grenades dites de désencerclement, mais qui ont pour effet non seulement d'avoir un effet assourdissant et aveuglant à travers les gaz lacrymogènes qui s'en dégagent, mais aussi de pouvoir blesser puisqu'il y a des projections d'éclats qui peuvent aller sur les corps et qui peuvent blesser grièvement. Donc on l'a dénoncé. On a de la même manière, puisque nous avions une équipe d'observateurs, comme nous le faisons pour beaucoup de manifestations depuis des années, nous avons également dénoncé le retard qui a été apporté pour secourir un manifestant très gravement blessé entre la vie et la mort. Et nous avons un audio d'enregistrement qui démontre qu'effectivement il y a eu ce retard dans des conditions qui paraissent pour le moins discutables, puisque nous avons avisé, l'observateur qui était présent a avisé le SAMU, et dans le cadre des échanges téléphoniques avec le SAMU, il est démontré qu'il y a eu interdiction faite au SAMU d'accéder rapidement à ce manifestant blessé de la part du commandement de gendarmerie qui régissait la zone. Et il y a eu un retard de 30 minutes qui s'avère catastrophique pour l'état de santé de cette personne dénommée Serge, qui est toujours dans le coma et toujours, semble-t-il, en danger pour sa vie.
Vous pouvez retrouver l'interview du président de la Ligue des droits de l'homme en totalité dans l'émission de Jean-Jacques Chavanne, Des femmes, des hommes et des droits, ce jeudi à 7h30, 8h30 et 12h30, disponible aussi en fin de semaine en podcast sur le site www.radio-b.fr.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Christian Carambeu, Jean-François Debat, Robert Pires ou encore Paul Mirabel, quel est le lien entre ces personnalités ? Un match de foot caritatif. C'était pendant les vacances de Pâques, au stade Verchères de Bourg-en-Bresse, une équipe avec des personnalités de l'Ain contre une équipe avec des personnalités de toute la France. Les entrées ont été reversées à l'UNICEF, qui aide les enfants dans le besoin. 10 000 euros ont été récoltés pour l'occasion. On écoute les réactions de Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, Christian Carambeu et Robert Pires, champion du monde de football en 1998, et Paul Mirabel, humoriste.
Moi j'étais un grand enfant, comme tous ceux qui était là, de voir ces grands joueurs, de voir ces artistes, de voir ceux qui se sont déplacés pour une belle cause dans ce stade. Et le premier sentiment, c'est de la fierté et puis du plaisir sur le terrain, même si je me suis fait une élongation à force d'un mauvais tir. Mais oui, fierté que tel événement s'organise ici. Merci aux organisateurs, notamment à David Vanditelli, au FBBP. Et plaisir de voir tous ces joueurs-là. Il y en a qui ont gardé le beau reste. Voilà, et donc j'espère que les spectateurs ont vu aussi un beau match de football.
Alors, ça vous fait quoi de jouer aujourd'hui sur le terrain de Bourg-en-Bresse, le stade Verchères ?
Alors, c'est un privilège pour moi parce que c'est ma seconde fois. La première, c'était en 93-94, si je me souviens bien, contre l'équipe d'ici. Et Dieu sait que ça a été très difficile pour nous pour se qualifier. D'ailleurs, on a marqué qu'un seul but, on s'est qualifié et par la suite on a été jusqu'en finale contre le PSG qu'on a perdu. Mais en tout cas, voilà, ça a été une révélation d'une belle génération qui a porté ses fruits par la suite. Et bien évidemment, ici, encore au stade Marcel Verchères, de se sensibiliser, d'être solidaire avec la cause de l'UNICEF pour justement ceux qui sont en urgence. Donc on sait qu'il y a eu des actions qui ont été menées plusieurs fois. D'ailleurs, c'était avec la Turquie, la Syrie, par rapport au tremblement. Donc, on doit remercier justement ce public venu nombreux pour aider justement ces causes-là.
On est là pour la bonne cause. Je crois que les gens l'ont vu. J'espère qu'ils l'ont remarqué pour l'UNICEF, pour chaque enfant. Donc, il faut penser à eux s'ils sont en difficulté. Donc, généralement, l'UNICEF, quand ils font appel à nous, les sportifs, les acteurs, les comédiens ou les humoristes. Généralement, on répond présent et on fait le déplacement. Et puis, ça nous permet de découvrir une ville que personnellement, je ne connaissais pas, Bourg-en-Bresse. Donc non, c'est très bien que tout le monde soit là aujourd'hui.
T'es à la fois très fier et très fatigué parce qu'ils vont tout plus vite que nous. Que ce soit physiquement, mentalement, tactiquement, techniquement, tout va plus vite. Et moi, je suis pas très rapide dans la vie. Donc voilà, j'adore le foot, mais je crois que je suis plus efficace quand je regarde.
L'invité de Radio B.
Une BD est sortie fin mars sur l'affaire des bébés sans bras. Son titre, Bébé sans bras, un déni sanitaire. C'est aux éditions Les Échappées. Mélanie Deschalotte et le dessinateur Juin en sont les auteurs. Ils travaillent tous les deux pour Charlie Hebdo notamment. L'affaire des bébés sans bras, pour le département de l'Ain, c'est notamment la naissance de 8 nourrissons avec une malformation au bras entre 2009 et 2014. Des recherches scientifiques mettent en avant la piste de l'exposition aux pesticides des mères quand elles étaient enceintes. Cette bande dessinée permet de mieux comprendre le sujet. Nous avons échangé avec Mélanie Deschalotte, la journaliste qui a écrit l'enquête.
Pourquoi je me suis intéressée à l'affaire ? Bah, j'en ai pris connaissance, comme tout le monde, en 2018, par la presse. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était la débauche de moyens mis en œuvre par les autorités de santé pour discréditer la REMERA, qui est le registre des malformations en Rhône-Alpes, plutôt que de chercher la cause, en fait. On avait l'impression que tout était fait pour essayer de montrer que ce registre n'était pas crédible. Ensuite, il y a eu ces rapports qui ont été dénoncés par le monde scientifique. Et puis, Agnès Buzyn est intervenue, enfin, et elle a donné une nouvelle enquête aux mêmes qui avaient nié le cluster de l'Ain. Et donc, les rapports qui sont sortis étaient tout aussi fallacieux que les premiers. Et puis, en fait, tout le monde a oublié les bébés sans bras. Les derniers rapports sont sortis en 2019, puis 2020-21, et en fait, il y a eu le Covid. Tout le monde s'est détourné des bébés sans bras. Et moi, ça m'intéressait de savoir comment les familles avaient vécu ce fiasco et ce qu'était devenu le REMERA et Emmanuel Amar. Donc, d'abord, c'est pour ça que je me suis de nouveau intéressée à cette enquête. Et puis aussi, j'ai lu les rapports, les derniers rapports des autorités de santé, et j'ai été frappée par le fait que ces rapports étaient complètement creux, qui ne s'intéressaient pas du tout aux pistes qui avaient été suggérées par les experts du registre des malformations en Rhône-Alpes. Donc j'ai trouvé ça intéressant, peut-être moi, d'aller essayer de creuser ces pistes. Ensuite, pourquoi faire une BD et pas un livre ? Il y a plusieurs raisons. La première est que cette affaire soulève un certain nombre d'informations qui peuvent parfois être arides. Il y a de l'information scientifique, administrative. C'est une question de santé environnementale. C'est une question d'écologie. C'est une question... il faut s'intéresser à beaucoup de choses et ce sont des informations parfois compliquées. Alors, sous la forme d'un livre, ça peut être un peu moins digeste. Ensuite, je trouvais que c'était un bon moyen d'avoir recours à une bande dessinée, puisque les autorités de santé, elles utilisent un langage très déstabilisant, difficilement compréhensible. Elles sont dans le jargon, pour pas dire la novlangue. Et finalement, avec mon confrère Pierrick Juin, qui est dessinateur à Charlie Hebdo aussi, on s'est dit que la bande dessinée, ça pouvait être un bon moyen pour essayer de vulgariser et de transmettre un certain nombre de connaissances et aussi de donner les outils aux gens pour comprendre quelles avaient été toutes les parts obscures de cette affaire.
Une question un peu large, quelle est la chose qui vous a peut-être le plus bouleversé dans vos recherches, dans votre enquête ?
Tous les deux, quand on est allé dans l'Ain, on a été étonnés de la réserve d'abord des familles d'enfants, de bébés sans bras. Certaines familles étaient assez rétives à l'idée de rencontrer des journalistes et il a fallu vraiment créer une certaine confiance avant qu'elles acceptent de nous parler. Et ça, c'est une chose. Ensuite, quand on discutait avec ces familles, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces familles étaient démunies face au jargon de Santé publique France, face au jargon des autorités de santé. Parfois, elles avaient conscience qu'elles étaient manipulées, et pour autant, elles n'avaient pas forcément envie d'aller plus loin parce qu'elles estimaient qu'elles étaient de petites gens et que le combat était perdu d'avance. C'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Par la suite, on a rencontré, par exemple, d'autres familles, notamment en Bretagne, et là, on a été frappé de la différence qu'il y avait entre les familles de Bretagne et les familles de l'Ain. Les familles qui ont été touchées par les malformations en Bretagne sont des familles aux profils socio-culturels très différents. Il y a des familles qui sont plus outillées pour comprendre le jargon des autorités de santé. Je pense notamment, il y a une mère médecin donc qui sait très bien de quoi il en retourne et qui peut tout à fait se confronter aux rapports médicaux, à toutes ces choses-là. Et pour autant, ces familles, c'est-à-dire que, comme un peu dans l'Ain, elles n'avaient pas forcément envie d'aller porter plainte et d'aller plus loin, parce qu'elles, elles, à l'inverse, c'est le même résultat, mais avec un autre chemin, elles pensaient finalement que elles se sont investies, comme elles étaient en mesure de s'investir dans l'enquête qui était proposée par l'ANSES et Santé publique France, elles y ont cru. Et elles se sont investies médiatiquement, dans les comités. Et arrivées à la fin, quand elles ont compris que les autorités de santé avaient fait semblant de chercher, elles ont été très évidemment déçues, blessées. Mais elles nous ont expliqué que maintenant, aller porter plainte, c'était une autre étape. C'était se rebeller contre l'État et elles n'étaient pas forcément à l'aise avec ça. Donc finalement, un peu comme dans l'Ain, mais pour d'autres raisons. En revanche, on a vu aussi des familles qui ont porté plainte. Les deux familles, puisqu'il n'y en a malheureusement que deux, qui ont le courage d'aller d'engager une démarche judiciaire. Et je tiens à dire que aussi bien dans l'Ain que aussi bien en Bretagne, ces familles sont particulièrement courageuses et ce qui nous a frappé, c'est vraiment leur altruisme, parce que finalement, elles sont pas dans une démarche judiciaire qui serait vénale et intéressée, dans l'idée d'avoir de l'argent, dans l'idée de récupérer quelque chose, un gain personnel. Elles sont vraiment dans l'idée d'avoir des réponses, pour donner des réponses à leurs enfants, et puis aussi d'éviter aux autres familles, à d'autres familles, finalement, de se retrouver dans la situation dans laquelle elles sont. Et ça, c'est vraiment frappant, et quand on les écoute, on se rend bien compte qu'elles ont beaucoup de courage, parce que les agences de santé, par exemple, ont tout de suite perçu les différences, que ces familles étaient très différentes les unes des autres, que ce soit dans l'Ain, ou que ce soit en Bretagne, ou que ce soit en Loire-Atlantique, ou que ce soit dans les étangs de Berre. Et l'agence de santé a joué sur ces différences socioculturelles. Elles n'ont pas eu le même discours en fonction des familles auxquelles elles s'adressaient. Elles ont utilisé des leviers différents, mais dont le but était toujours le même, c'est-à-dire dissuader les familles d'aller plus loin, leur faire comprendre que de toute façon, il n'y avait aucune chance de trouver, et puis que, que voulez-vous, c'est la faute à pas de chance, c'est la vie, et on fait avec. Voilà, donc ça nous a frappés.
Quand je lis cette BD et puis cette affaire en général, ce qui me choque le plus, c'est le fait que le gouvernement ne fait rien, qu'il y a vraiment un tabou sur cette affaire, qu'il l'étouffe depuis des années.
Complètement.
Est-ce que vous comprenez pourquoi ils étouffent autant cette affaire ?
Moi, ce que je peux comprendre, par rapport au cluster de l'Ain, pourquoi ce cluster de l'Ain, qui a été scientifiquement prouvé, c'est-à-dire que là, on peut pas faire comme si, on ne peut pas le réfuter. Il est scientifiquement prouvé. Pourquoi Santé publique France refuse de reconnaître l'existence de ce cluster ? Je pense que la raison, finalement, est plus simple qu'on ne le croit. C'est que, comme le registre des malformations en Rhône-Alpes, le REMERA, a lancé des alertes dès le début 2011, et qu'ils ont renouvelé leurs alertes, ils n'ont cessé de dire « attention, attention, il y a un excès de cas d'enfants nés avec la même malformation, il y a donc un cluster dans l'Ain », que les autorités de santé n'ont rien fait, sont restées complètement inertes. Donc les années sont passées, des enfants sont nés avec la même malformation. Donc aujourd'hui, si l'agence de santé reconnaît qu'il y a un cluster dans l'Ain, elle va être obligée de reconnaître sa part de responsabilité, qui est d'avoir été sans réaction face aux alertes du registre qui a fait son travail. Et son travail, c'est de sonner l'alerte. Et le registre l'a fait à maintes reprises. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a ce problème-là, pour l'Ain, qui pour moi me paraît assez évident. Ce que je sais aussi, c'est que il y a un vrai problème avec les malformations en France, avec les naissances d'enfants avec malformations. Il faut bien comprendre que une malformation, c'est pas une pathologie à déclaration obligatoire à la naissance. Ça veut dire que si vous n'avez pas un registre qui travaille sur un département, sur un secteur, une région, pour recenser, faire son petit travail de fourmi, recenser toutes les malformations qu'il y a sur une région, sur un département, eh bien, en fait, on ne peut pas savoir la fréquence des malformations. Et on peut encore moins savoir si elles ont lieu dans la même région, dans la même zone. Donc, on ne peut pas détecter de cluster. Et quand on sait qu'il n'y a que 6 registres en France, un 7e va ouvrir, ce qui donne une couverture de 20% du territoire français. Quand vous savez qu'il n'y a que 20% du territoire français, on est tout à fait en droit de se dire que dans les 80% restants, il y a de grandes chances qu'il y ait d'autres clusters d'enfants avec cette malformation. Et pourquoi les autorités de santé ne veulent pas créer un registre national? Alors elles vont vous dire, ah bah oui, mais 20% ça suffit. Mais non, c'est pas vrai. Ça pouvait suffire au XXe siècle. Au XXe siècle, cette malformation, les malformations chez les enfants, étaient dues à la prise de médicaments, je pense thalidomide, dépakine, ou à des virus. Or, on est au XXIe siècle, on sait, les causes environnementales de malformation sont devenues, un sujet prépondérant. Et ça, je pense que les autorités de santé, elles n'ont pas trop envie qu'on s'y intéresse. Et donc, elles n'ont pas envie qu'on sache finalement combien il y a de clusters en France.
La journaliste Mélanie Deschalotes a notamment travaillé avec Emmanuel Amar, qui dirige le registre des malformations en Rhône-Alpes. Emmanuel Amar avait notamment donné l'alerte sur le cluster de l'Ain. On l'écoute.
Quoi, pour vous, c'était important de faire une BD sur cette affaire?
Alors, la BD, surtout avec le côté Charlie, qui peut parfois un petit peu choquer, mais ça sert à ça aussi, le dessin. C'est un petit, il sert aussi à dénoncer le scandale, à poser des questions. Donc, cette BD, elle venait comme un nouveau support. Moi, j'avais écrit un livre, et tout le monde n'a pas accès ni au livre, ni c'est pas le support adapté pour par exemple, des jeunes qui se tournent plus volontiers vers la BD. Je trouvais que c'était une deuxième façon d'aborder la question et qui ne faisait qu'enrichir le débat, quoi.
Pour revenir à la situation du registre des malformations en Rhône-Alpes, vous en êtes où aujourd'hui ?
Non, c'est terrible à dire parce que d'un côté, on a une communication des autorités sanitaires qui vont dans le sens d'un soutien au registre. Et alors on se dit, c'est super, c'est bon, le registre va vivre. Mais dans les faits, il faut savoir que les contrats de travail de la moitié de l'équipe s'arrêtent là à fin avril et ne sont, on n'a même pas une information sur le fait qu'ils seront ou pas renouvelés. Il y a des personnes qui travaillent depuis 10 ans dans le registre qui ne savent pas si à la fin du mois, ils vont travailler le mois prochain. Donc c'est absolument terrible, terrifiant.
Et est-ce que vous arrivez à expliquer un peu pourquoi en France, on ne finance pas du tout ces registres? Pourquoi c'est toujours difficile de survivre?
Alors, vous me posez la question difficile parce que forcément, je ne vais pas vous dire que je n'ai pas réfléchi, on ne fait que ça d'y réfléchir. Et dans un premier temps, on se disait peut-être que certains ne voient pas l'intérêt. Dans le même temps, on voit tout à fait l'intérêt de mesurer le nombre de voitures vendues, le nombre de véhicules qui passent sur telle ou telle route. Donc, la question de la mesure est capital dans cette affaire, c'est qu'on en vient à se dire qu'on n'a pas envie de mesurer les malformations parce que s'il y a un signal qui disait là il y a une augmentation, ça obligerait à aller faire des études, ce serait du temps, ce serait du travail, ce serait de la responsabilité, peut-être que ça mettrait en conflit des intérêts privés qui n'ont pas envie d'être soulevés. Enfin, c'est très difficile pour moi de répondre, toujours est-il que ça, depuis les années dont on parle de cette affaire, pas des bébés sans bras, mais de la surveillance en général, on a compris que c'était vraiment, vraiment pas une priorité.
Emmanuel Amar indique qu'il manquerait seulement 50 000 euros pour que le registre des malformations en Rhône-Alpes continue son activité. Ils sont 5 salariés, le registre dépend des hospices de Lyon, et ce financement relève de la décision du ministère de la Santé. La région Auvergne-Rhône-Alpes a arrêté de financer le registre en 2017 lors de l'arrivée de Laurent Wauquiez à la présidence de la région. Emmanuel Amar a saisi le nouveau directeur général de la santé pour essayer d'obtenir le financement manquant.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 100-120 ans.
En reportage avec Radio B.
Les enfants de la Résistance, c'est le nom de la nouvelle exposition que vous pouvez voir au Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain à Nantua. Séverine Champenois, médiatrice culturelle, nous la présente.
Alors on se trouve ici dans notre espace d'exposition temporaire qui accueille actuellement une exposition intitulée « Les enfants de la Résistance ». Il s'agit d'une exposition qui a été créée par les éditions Le Lombard, qui produit la BD du même nom, donc la BD « Les enfants de la Résistance ». C'est une BD qui a été réalisée par Vincent Dugommier et Benoît Hers, donc le premier étant le scénariste, le second étant le dessinateur. Cette BD, en fait, elle existe depuis 2015. Elle compte aujourd'hui 8 tomes et elle raconte l'histoire de 3 jeunes gens, 2 garçons et une fille, François, Euseb et Lisa, qui vont traverser la période 39-45 en vivant tout un tas d'aventures et notamment en créant un groupe de résistance qui s'appelle le Lynx. Et donc l'exposition reprend les grandes thématiques développées dans les albums pour donner des informations historiques qui sont notamment illustrées par des vignettes de la BD. Et la particularité, c'est que nous avons ici au musée choisi d'enrichir l'exposition de panneaux par des vitrines qui présentent des objets, des collections du musée en lien avec les thématiques développées dans les panneaux.
Et pourquoi vous avez choisi d'accueillir cette exposition ?
Alors, d'abord, c'est une BD qui fonctionne très très bien auprès de la jeunesse. Et c'est vrai qu'elle nous semblait tout à fait intéressante pour attirer peut-être aussi ce public-là dans notre musée. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a un lien direct entre la BD et le département de l'Ain, puisque le tome 8 se termine sur une vignette qui présente le défilé d'Oyonnax du 11 novembre 1943. Donc il y a une référence directe à l'histoire du département au sein même de la BD. Il faut préciser que les auteurs de cette BD ont travaillé avec des historiens, ils ont fait un gros travail de documentation et donc c'est assez fidèle en fait à l'histoire qui s'est réellement passée pendant cette période-là.
Est-ce qu'on peut peut-être voir quelques endroits que vous préférez ou qui sont les plus importants de cette expo ? On ne va pas tout dire non plus.
Oui, hein. Bien sûr. Alors, par exemple, on a ici une vitrine qui présente des jouets d'enfants. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on en a plusieurs de ces jouets qui mettent en avant la figure du maréchal Pétain, par exemple à travers un puzzle où on reconstitue le portrait de Pétain. Et puis, on a également un album de coloriage qui montre des scènes illustrant le parcours du maréchal Pétain. Alors, ces objets qui pourraient sembler un petit peu incongrus aujourd'hui pour des enfants, en fait, ils reflètent complètement l'esprit de l'époque, puisque il faut rappeler qu'on est donc dans un régime autoritaire dont l'une des caractéristiques est de développer un culte de la personnalité autour de la figure du chef. Et effectivement, ici, il s'agit bien du maréchal Pétain. Donc, vous avez toute une gamme de produits, de supports qui sont destinés à mettre en avant donc le maréchal Pétain pour expliquer aux plus jeunes combien il est exceptionnel, formidable, enfin bref, on est en pleine propagande évidemment. Donc voilà, on a quelques petites choses qui illustrent ce type d'objet. Et puis, on a par exemple également, alors toujours dans le même esprit, ici, plus des choses scolaires. Donc par exemple, on a ce qu'on appelle ici un témoignage de satisfaction. Alors c'est une espèce de petite carte envoyée par les services du maréchal. Mais bon, tout est fait pour que l'enfant pense que ça lui est personnellement adressé. Et donc ça, c'est adressé... Voilà, à des élèves suite à une lettre ou un dessin qu'ils ont envoyé au maréchal Pétain. Alors, on se trouve ici devant une affiche qui s'appelle « Population abandonnée, faites confiance aux soldats allemands ». Et elle nous montre cette affiche, un soldat allemand plutôt bien fait de sa personne, grand, bien bâti, très souriant, qui porte dans ses bras un petit enfant, un petit garçon qui semble manger une tartine. Et puis à côté de lui, il y a deux petites filles qui regardent avec envie la tartine. Alors cette affiche, elle est un petit peu spéciale, puisque donc elle a été produite par les Allemands à l'été 1940 dans le but de rassurer la population sur l'arrivée des soldats allemands. Parce qu'il faut préciser que lors de l'attaque allemande sur la France, l'arrivée des soldats allemands est précédée de tout un tas de rumeurs qui racontent que voilà, les soldats pillent, tuent, violent, enfin bref, tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Donc c'est assez angoissant pour la population. Et une fois la victoire acquise, après donc l'armistice du 22 juin 1940, les Allemands se rendent compte qu'ils n'avaient pas forcément prévu de gagner aussi vite. Et donc, ils ne sont pas prêts forcément à occuper le territoire. Ils n'ont pas assez d'hommes pour occuper le territoire et donc pour maintenir l'ordre dans la partie occupée. Donc, du coup, ils vont tout faire pour essayer de calmer la population, de calmer les tensions avec la population. D'où la production de cette affiche qui va avoir pour objectif de rassurer les Français sur le fait que les soldats allemands ne sont pas les dangereux criminels qui ont été décrits par la rumeur. On est bien sûr dans une affiche de propagande, attention. Alors, il est vrai que dans un premier temps, l'occupation va se passer de manière plutôt correcte avec la population. Bon, les choses vont se corser, bien sûr, assez rapidement, mais les premiers mois, on va dire, se passent plutôt dans le calme. Donc cette affiche, elle est intéressante aussi parce que justement, dans la BD, dans le tome 1 de la BD, une vignette y fait référence. On voit donc en fait les héros qui se retrouvent face à cette affiche dans une rue de leur village. Et donc voilà, on a choisi de montrer à nos visiteurs la version originale de cette affiche évoquée dans la BD. Alors ici, on est devant un espace un petit peu spécifique de cette exposition, puisqu'on a souhaité, à l'occasion de la présentation de l'exposition « Les enfants de la Résistance », y ajouter un petit complément spécifique à l'un. C'est une mise en lumière de l'action du lycée Lalande à Bourg-en-Bresse. Alors il faut expliquer que pendant l'occupation, certains lycéens de ce lycée Lalande vont organiser à l'intérieur même du lycée un groupe de résistance qui sera rattaché à des groupes résistants de la ville, et ils vont mener différentes opérations. Alors certains vont payer le prix cher, puisque certains vont être arrêtés, certains seront déportés. Et parmi les membres fondateurs de ce groupe, on trouve notamment Paul Morin, qui par la suite sera notamment maire de Bourg et conseiller général du département de l'Ain. Et donc Paul Morin, jeune lycéen de 17-18 ans, fait partie des membres fondateurs de cette organisation résistante. Il faut préciser que lui-même sera arrêté en juin 1943 et déporté vers le camp de concentration de Dachau. Donc on présente dans la vitrine qui est ici, par exemple, alors un très bel objet, qui est la carte d'identité, la fausse carte d'identité pour être plus précise, que Paul Morin utilisait. Alors on note que cette carte, elle est au nom de Christian de Gourbe, qui est en fait un nom d'emprunt qu'il utilisait pour éviter bien sûr d'être repéré. Alors une petite anecdote, il avait choisi ce nom de Gourbe, qui est en fait de Bourg à l'envers.
L'exposition « Les enfants de la Résistance », c'est jusqu'au 15 novembre au Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain à Nantua. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain à 18h. En attendant, belle semaine sur nos ondes.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures. qui devront faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre, pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.